Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors longtemps, la sexualité était surtout considérée comme un moyen de se reproduire, et bien plus que comme un moyen d'avoir de la jouissance. Et puis, c'est vrai, il faut reconnaître, la nature a toujours pour objectif de nous apporter du plaisir pour ce qui est nécessaire à notre survie. Par exemple, on a du plaisir à manger, et c'est pour ça qu'on se nourrit peut-être même un peu trop parfois. Et puis, le plaisir de faire l'amour, ça sert pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, je crois qu'on sait que la sexualité sert d'abord à nous donner du plaisir, et pourtant, elle reste encore trop sérieuse chez de nombreux couples, et je dirais même qu'il y a trop d'enjeux. Alors pourquoi ? C'est la réponse que mon invité va nous apporter durant ces deux heures, puisque Philippe Arlin est sexothérapeute et il travaille notamment sur les questions du désir. Et c'est vrai que désir, ça rime quand même très très bien avec plaisir. Alors quelles seraient les pistes pour mettre un peu plus de jeu et moins d'enjeux, plus de surprises et moins de routine ? Bien, c'est ce qu'on va vous dire durant ces deux heures. Et puis on compte sur vous, bien sûr, pour nous apporter aussi ce que vous avez trouvé pour avoir une sexualité harmonieuse malgré le couple qui dure parfois longtemps, et tant mieux d'ailleurs. Et puis, alors on pense au jeu, au libertinage, pourquoi pas, et puis peut-être d'autres pistes comme le slow sex, le sexe sacré, le polyamour, enfin que sais-je encore. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin.
Bonjour Brigitte.
Alors vous avez beaucoup travaillé sur, justement sur le désir, hein, qui est quand même une des premières causes de consultation, notamment pour les femmes dans les couples, à tel point que vous avez été jusqu'à écrire ce livre qui marche très très bien d'ailleurs aux éditions de la Musardine, Libérez votre désir.
Voilà.
Bon, mais comment on fait pour maintenir le désir ? Et vous êtes d'accord en tout cas qu'il y a trop d'enjeux.
On enlève la pression, c'est-à-dire on arrête de passer un examen à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, un examen autour d'être capable de faire jouir, autour de jouir pour la femme, autour d'être à la hauteur, de séduire, les enjeux, est-ce qu'il m'aime, traduit par est-ce qu'il bande, est-ce qu'il me désire, est-ce qu'il me trouve belle, c'est fatigant.
Bah oui,
je me demande encore comment les gens font pour avoir des rapports sexuels avec toutes les contraintes qui se mettent inutilement dans la tête avant même de se rencontrer.
Oui, parce que finalement, un rapport sexuel, ça devrait être juste un moyen de se retrouver charnellement et puis de se faire du bien, normalement.
Dans un idéal qu'on va essayer d'aider les auditeurs à construire, oui, bien sûr que ça devrait être ça. Et il n'y a pas de raison que ça soit autre chose. Et plus on va le regarder comme ça, plus on va se rendre compte que tous ces scénarios catastrophes qu'on s'est un peu fait dans la tête tombent de même, parce que la catastrophe, elle est plus liée à l'enjeu qu'on met sur la sexualité qu'à la sexualité. La sexualité, elle marche toute seule.
Oui,
la nature, elle
marche toute seule si on n'y a rien mis au-dessus.
Si, mais justement, si on n'y met pas de pression dessus, si
voilà.
On la laisse faire.
On est d'accord. Alors, c'est vrai que ce qui se passe donc, dans un couple, et parfois même très vite, hein, au bout de quelques mois de vie commune d'ailleurs, hein, il y a des symptômes qui se mettent en place, du coup, ça marche moins bien, et qu'est-ce qu'on finit par faire ? On finit par aller voir ailleurs si ça marche mieux.
Ou même, on finit par fuir le rapport sexuel, parce que comme on n'a pas osé dire ou questionner ce qui pose problème, eh bien, on préfère se réfugier, certains dans la masturbation, certains dans se tourner. C'est-à-dire, on se confronte pas parce qu'on a peur des réponses qui pourraient apparaître là, alors que ça devrait être encore une fois allégé de cette peur. Et si on pouvait en parler, peut-être que tous les malentendus pourraient être levés et ça repartirait. Et des fois, c'est effectivement ce qui va se passer dans mon cabinet. C'est-à-dire qu'on va juste lever les malentendus, on va leur permettre de se parler et tout d'un coup, on se rend compte que cette sexualité, elle allait plutôt bien. Il suffisait juste de régler deux, trois petits problèmes pour que ça reprenne. Mais comme on n'en parle pas, eh ben on fuit et on fuit l'échec de toute façon, et ce qui est normal.
Oui, bien sûr, ça c'est normal. On n'a pas tellement envie, quel que soit le domaine, d'être face à son échec. Alors, Philippe Arlin, vous dites bien donc que la notion de performance est certainement un des premiers handicaps pour une sexualité harmonieuse.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme handicap ?
Ce qu'on fait porter en termes d'interprétation, c'est je pense que le fait de se sentir désiré par l'autre reste un enjeu trop important. C'est-à-dire, beaucoup de couples vont venir en exprimant la problématique, en disant « Oui, j'en ai marre, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas, ça, j'ai l'impression que l'autre, j'ai l'impression que si j'y vais pas, bah, l'autre ne viendra pas, ça me met dans une position difficile, j'ai l'impression que moi j'aurais besoin de me sentir désiré, quand je me sens pas désiré, je me sens pas aimé, et etc., etc., etc. » Alors, j'ai envie de dire, quand la sexualité est pas toujours facile, parce que faut pas croire que c'est facile. Le présupposé, c'est d'arrêter de croire que c'est facile, mais pour autant, d'aller chercher des solutions. Donc, quand on part de cette idée que c'est pas forcément facile, il faut arrêter de se compliquer la tâche pour savoir qui prend l'initiative. Au bout du compte, on est quand même contents tous les deux d'avoir des rapports sexuels. Donc oui, ok, c'est peut-être un plus que l'autre, mais
ça n'a pas grande importance.
Puis des fois, on interprète à tort.
C'est souvent l'un plus que l'autre qui conduit la voiture.
Et puis des fois, on interprète à tort pourquoi l'autre ne prend pas l'initiative. C'est rarement un problème d'envie. C'est des fois un problème d'incapacité à dire j'ai envie. Ça n'a rien à voir. Donc, déjà, moi, je vais aider les couples à se dire j'ai envie à travers des jeux, à travers un code, à travers des gestes qui vont éviter d'avoir à prononcer tu viens, on le fait, ou je ne sais quelle phrase qui est difficile à sortir. Voilà. Et faut aussi arrêter de penser qu'on a une attitude que l'autre devrait interpréter comme une ouverture. Mais je comprends pas, il aurait dû comprendre, j'ai pris une douche, ça veut dire que... Ouais, on se calme, on en parle, on se le dit. Quand on a envie d'aller au restaurant, on se met pas juste devant la porte comme le chien avec la laisse en disant bah t'aurais dû comprendre que je voulais aller au restaurant. Bah on le dit, ça te dit, on va dîner, on sort et on partage un bon repas.
Mais ça peut aussi être une manière de se parler sans se parler, d'avoir des codes.
Mais oui, et c'est là, je dis, il y a pas que les mots, mais il faut une communication. Communication, c'est pas forcément les mots. La communication, c'est faire passer un message.
Je me souviens un jour d'un love conseil que j'avais donné qui avait beaucoup plu. C'était de mettre un... Vous savez, sur le réfrigérateur, on peut mettre des
magnets.
Des petits trucs avec aimants.
Ouais.
Et j'avais dit, vous avez qu'à mettre un bleu et un rose. Excusez-moi pour le stéréotype.
Non, mais c'est pas grave.
Et puis vous le mettez, voilà. Et puis quand les deux se rapprochent, ça veut dire que vous
avez... La levrette, c'est de quelle couleur?
La couleur, c'est jaune, bien sûr.
Ah,
la levrette, vous savez bien.
Bah oui, moi je demande, hein. Je fais attention. Il y a ça, il y a
c'est moderne, la levrette, aujourd'hui.
Il y a le bisou qu'on fait à l'autre à un endroit alors qu'on le fait jamais à cet endroit-là. Par exemple, d'aller mordiller le lobe. Il y a le code. Moi, je dis aussi, par exemple, à certains couples, trouver un code du style fais-moi penser à arroser les plantes quand on va rentrer ce soir. Je dis, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le dire à un dîner. Personne n'aura compris que vous venez gentiment de dire à votre partenaire que ce soir, vous allez peut-être faire crac-crac.
L'arroser. Vous allez l'arroser ce soir.
Brigitte, faut bien que ça pousse.
Vous croyez que ça pousse le
désir toujours.
Le désir toujours.
Ouais, si ça pousse à faire des bêtises.
À condition qu'on l'arrose, voilà.
Ou à s'amuser.
Alors, dans mon introduction, je proposais différentes pistes. Le libertinage, ça ne marche que si le couple va bien. C'est pas une solution.
Oui, c'est pas le libertinage qui va régler le problème. C'est quand le problème est réglé, on peut aborder le libertinage.
Bon, alors le jeu, oui, on vient d'en parler. Hein. Alors le jeu, c'est vrai que c'est un bon moyen d'améliorer la sexualité du couple. Et puis il y a d'autres choses. Moi j'aime bien, alors le slow sex, c'est un truc qu'on connaît pas trop bien, mais dont on parle un petit peu. C'est juste déjà de se faire du bien sans être obligé de faire des choses trop performantes,
hein. Ouais, c'est ne pas être dans la finalité, mais être beaucoup plus dans le présent, prendre le temps d'apprécier, de ressentir. C'est revenir au corps en appréciant
aux cinq sens
et en redécouvrant la valeur du slow, justement, de la lenteur, de retrouver un rythme et d'explorer, de découvrir. Et souvent, c'est assez surprenant ce qui surgit dans des...
Je crois que le slow sex, ça peut être tout à fait intéressant et donc on peut éventuellement en parler avec vous si vous le désirez. On peut évidemment répondre à toutes vos questions. Et puis, alors je souris parce que Julia Pallon est en train de découvrir ses cadeaux.
C'est le Père Noël, Julia.
C'est le Père Noël. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Philippe Arlin, on va vous donner plein de conseils pour que votre sexualité soit harmonieuse au fil du temps. Bonjour Philippe.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. C'est curieux à dire.
N'est-ce pas?
C'est un très beau prénom. C'est un prénom magnifique.
Bah oui, quand on aime les chevaux, on ne peut pas déplaire à Brigitte quand même. Oui,
exactement. Donc là, je vous téléphonais parce que je rebondissais, je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit depuis le début, et notamment vous racontez une histoire qui vous est arrivée, qui marquait un peu le début d'une histoire avec une amie. C'était nos premières vacances dans un club de vacances dans le sud de la France, mais c'était en dehors de la saison touristique, il y avait peu de monde et pas d'enfants du tout.
Et
on avait passé une après-midi plutôt coquine, sans aller très loin, mais vous savez, on s'était chauffé toute l'après-midi, on était tous les deux bien partis. Lors du repas arrivait, je lui ai dit, écoute, je te propose une chose, tu vas venir nu sous ta robe. Là, il a fallu négocier un petit peu, hein, sur le coup. Elle avait l'habitude, mais là, ça l'a pris au pied du mur, ça coinçait un peu. Puis finalement, elle dit OK, on y va, comme ça. Et puis, on va manger. Et on continue comme ça à chauffer mutuellement. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'au départ, elle était très embêtée pour être toute nue sous sa robe, en se disant, tout le monde me voit, tout le monde le voit. Je dis, ben non, écoute, si personne ne fait
attention. Sauf si c'est une robe transparente.
Oui, mais non, on n'en était pas là quand même.
Non, bon, bien sûr.
Et ce qui est très, il y a deux choses qui sont très grandes. La première, c'est qu'effectivement, durant le repas, d'un seul coup, je l'ai vue se redresser. Franchement, c'était très net. C'est-à-dire qu'elle a pris conscience de la nudité sous sa robe et elle a trouvé une fierté. Vous savez, une sorte de fierté à être. Vous savez pas ce que je suis, vous rendez pas compte de la personne que je suis, vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a en dessous, quoi.
Oui, et puis aussi le fait d'oser faire quelque chose comme ça, un petit peu marginal, transgressif, oui, c'est le mot plus exact, bien sûr, Philippe. Ben, ça donne confiance en soi, ça donne une estime de soi, et donc on se redresse.
Ah ouais, c'était vraiment très net. Hein. J'ai vu la seconde où ça s'est passé. Et quand je lui ai dit, elle dit, ah oui, c'est vrai, maintenant je me sens mieux, quoi. Et donc voilà. Et toujours est-il que le repas aidant, le vin aidant un petit peu, effectivement, on s'est chauffé assez mutuellement. Et puis après, on est parti se promener dans le camp, pendant que la soirée tombait.
Ouais.
Et d'un seul coup, elle me dit, j'ai envie de faire l'amour. Je dis, ben on va rentrer. Elle dit, non, j'ai envie de le faire ici. Et dehors. Avec les gens autour de nous, des choses comme ça. Et là, franchement, c'est pas mon truc à moi.
C'est vous qui, du coup, là, étiez moins fier.
Exactement. Comme quoi, on peut se faire prendre à son propre jeu, mais moi, on me met à défi, je relève, il n'y a pas de souci. Et elle me dit, et on a cherché un endroit où faire crac-crac, tranquillement dans un coin, parce que le but, c'était quand même de risquer d'être surpris, mais pas d'être surpris quand même, vous voyez.
Bien sûr.
Oui, c'est ce que le but c'était quand même. Le but c'était ça, de se faire peur sans être pris, quoi. Et bien écoutez, je vous jure, on a trouvé une demi-heure, trois quarts d'heure, on a cherché tous les coins, on n'en a pas trouvé. Hein. Ça a été l'horreur. On n'en pouvait plus tous les deux, on disait, mais c'est pas possible, il y a toujours quelqu'un qui passe à ce moment-là, et pourtant il n'y a pas grand monde, quoi. Je sais pas, peut-être que les concepteurs du club de vacances avaient prévu le coup. Il y avait toujours un angle de vue, des gens qui passaient, des choses comme ça. Et au bout de trois quarts d'heure, on s'est rabattu sur la chambre, mais ça a vraiment été une frustration, mais dont on en rit encore tous les deux en se disant qu'il faut vraiment qu'on remette ça un de ces jours parce que on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait.
Et vous n'avez pas réussi au moins à flirter ou en tout cas.
Si, elle avait vraiment envie d'aller au bout du truc. Quoi. Elle avait, c'était une sorte de défi qu'elle s'était mis à elle-même et c'était vraiment aller au bout. Donc là, c'était un moment très agréable, vous voulez dire, c'est très. Très rigolo, même on en rit encore tous les deux. Ça crée.
Mais à la limite, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que au fond, vous n'avez pas pratiqué l'acte, et c'est peut-être mieux parce que ça vous laisse un souvenir plus fort que si vous aviez eu une relation.
Et puis ça, oui, ça, je crois que ça participe autant parce que l'acte, il a eu lieu, et tant mieux, et vous avez trouvé l'endroit pour le faire de manière agréable et confortable. Mais ces trois quarts d'heure à chercher le recoin où on croit l'avoir trouvé, donc on est sur le point de commencer, et puis ah mince, on découvre. C'est un jeu de frustration absolument génial. C'est-à-dire ça monte et puis ça ah non, pas maintenant. C'est. Exactement. Je pense que dans la chambre à coucher, ça a dû exploser.
Ah oui, effectivement, ça durait longtemps. Il y avait beaucoup de choses à
rattraper. Il y avait du rattrapage, voilà.
Exactement. Et donc, c'est vrai que voilà. J'ai toujours aimé
ce qui est bien aussi dans ce que vous racontez, Philippe, c'est que vous vous êtes l'un et l'autre mis un défi.
Oui, exactement.
Mais c'est bien aussi dans un couple. Vous l'obligez un peu à prendre sur elle et à être un peu impudique en étant nue sous sa robe. Puis elle vous oblige à éventuellement être obligée d'avoir un rapport sexuel dans un lieu public.
Une forme d'impudeur aussi, du coup.
Oui. Vous êtes mis un défi l'un et l'autre, et donc ça a créé forcément une surexcitation désir.
Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une des clés avec le temps et l'âge, on apprend, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris plus sur le tard. Quand je me revois à mes débuts, je me sens empoté comme c'est pas possible, mais effectivement, proposer à l'autre, discuter...
On est vraiment vital, sur cette notion du désir qui se nourrit du manque. Donc quand on vit sous le même toit, avoir le manque de l'autre, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on peut avoir le manque du rapport, et c'est tout ce que vous avez su jouer dans la journée en vous chauffant, à travers le dîner, etc. C'est-à-dire que cette envie de se sauter dessus, vous l'avez nourrie de frustration, et donc vous avez nourri le désir, et effectivement, il y a un moment, on a juste une envie, c'est de s'arracher les vêtements et de s'y mettre. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que le désir, il a besoin de ce manque. Alors, des fois, on peut s'éloigner et se retrouver, ça peut être vraiment très bien, mais quand on ne peut pas ça, on peut aussi nourrir ce manque sexuel en se chauffant justement à distance, que un est au boulot, enfin chacun est dans son travail, et puis évidemment, on se raconte ce qu'on a envie de se faire, mais on ne peut pas se le faire parce que, évidemment, on n'est pas ensemble, donc ça monte. C'est une autre manière de nourrir le désir, et ça, il faut y penser.
Alors, il y a une solution aussi, vous mettez une cage de chasteté à votre partenaire, et puis vous perdez la clé, et là, vous serez dans la frustration un certain temps. C'est une boutade.
Ça s'appelle ronger la cage avec les dents.
Oui.
Non, c'est un fait. C'est un jeu auquel nous jouons assez régulièrement, soit avec des tenues un peu provocantes, soit moi avec des choses que je sais qu'elle aime. Et à un moment précis, on ne peut pas, justement. Et on joue vraiment un jeu comme ça, mutuel.
Vous prononcez le jeu, le mot « jeu », et c'est ça qui fait que votre sexualité va bien, Philippe. Merci de votre appel et de votre témoignage. On commence, bien avec un beau témoignage qui peut donner peut-être des idées à d'autres. On se retrouve dans un instant avec notre sexy news. C'est Julia Palombe, bien sûr, qu'on retrouve.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Julia Palombe, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Il n'y a que l'amour dans l'air ?
Oui, il y a comme une trace de fumée rose. Une étude récente vient de pulvériser le traditionnel « tu ne coucheras pas le premier soir ». Enfin !
Vous êtes content, Philippe, par là.
Hurrah !
Je couche même avant d'avoir rendez-vous, donc c'est pour dire.
Alors merci au journal The Sun, puisque c'est lui qui nous révèle l'information. Avoir une expérience sexuelle le premier soir aiderait à démarrer rapidement une relation amoureuse. J'en étais sûre. Je le dis depuis toujours. Je vous entends, chers auditeurs, abasourdis, choqués. Quoi ? Comment ? On nous aurait menti ? Eh bien oui. Voilà qui bouscule complètement nos habitudes. Nous qui en sommes encore à penser que celle qui couche le premier soir est une salope, celui qui le fait un baiser à ne plus jamais revoir, voilà qu'on nous révèle en fait que ce sont de petits malins. Les scientifiques l'affirment haut et fort, se salir tout de suite peut vraiment aider à nouer des relations entre des partenaires potentiels et non l'inverse. Formidable ! En effet, en se frottant aux odeurs et aux fluides de l'autre, l'attachement est plus profond que si tu échanges seulement un café sans contact au bar du coin. C'est du bon sens, mes amis. Il était temps de mettre le sujet sur le lit et à quatre pattes, bébé. Si la personne ne te convient pas à l'horizontale, tu n'auras aucun problème à t'en détacher puisque tu viens de la rencontrer. Par contre, si tu as créé des liens affectifs, amicaux avec elle, alors lorsque l'épreuve sexuelle arrive, tu auras peut-être plus de mal à lui dire, ayant peur de la vexer, de lui faire de la peine. Moralité, coucher le premier soir, c'est le meilleur moyen de trouver l'âme sœur rapidement. Ah, vive 2019. Les psychologues ajoutent leur couche eux aussi, en expliquant, bon ça on le dit avec Brigitte souvent, le désir sexuel joue un rôle prédominant dans l'attirance, mais aussi dans l'attachement. Et ceci est valable chez les deux sexes, homme comme femme. Le sexe prépare le terrain pour approfondir le lien émotionnel entre deux étrangers. Le sexe nous motive à être connectés indépendamment du genre. Bref, le sexe, c'est le ciment de l'humanité, en fait.
Il y a des chances, oui.
Mais alors, monsieur le président, franchement, ne voyez-vous pas ce qu'il vous reste à faire? Elle est bien, votre lettre, hein, et votre idée de débat. Mais je ne voudrais pas paraître condescendante. Seulement, si le peuple baisait plus, on n'en serait pas là, non? Réfléchir, c'est bien, mais s'embrasser, c'est mieux.
Bien puis que... au moins, quand on s'embrasse, on ne dit pas de conneries.
Voilà, on évite ça, c'est vrai. Alors, bien que les pulsions sexuelles soient distinctes des sentiments amoureux, bien entendu, les processus évolutifs et sociaux ont rendu les humains enclins à devenir, ça nous arrange, amoureux de partenaires dont ils sont sexuellement attirés. Bon, je suis bien contente que les sociologues le confirment. Je le sentais quelque part. Contrairement aux idées reçues, le sexe mène à l'amour. Cette phrase est formidable. Le sexe est un formidable tremplin de liberté, mais aussi un outil pour retrouver son âme d'enfant. Le sexe est un jeu, vous venez d'en parler à l'antenne il y a quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre de l'inconnu. Alors je ne résiste pas à vous citer les mots de l'immense acteur américain et polyglotte Viggo Mortensen, actuellement en promotion pour le film Green Book. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi pas
non,
encore.
Non.
Il paraît que c'est magnifique. Alors il dit ceci, « Chaque génération a l'opportunité d'évoluer, d'apprendre à mieux jouer avec les autres, comme on fait pendant l'enfance, sans penser à la couleur de peau ou les langues. » Bon, ben, je crois qu'il nous reste qu'une seule chose à faire. Il y a de l'amour dans l'air, partout où je vais. Il y a de l'amour dans l'air, chaque signe, chaque son. Et je ne sais pas si je suis folle, je ne sais pas si je m'imagine, mais c'est quelque chose en quoi je dois croire. Et c'est là quand je regarde dans tes yeux, y a de l'amour dans l'air, dans le murmure des arbres. Il y a de l'amour dans l'air, dans les tempêtes de la mer. Et je ne sais pas si je rêve, je ne sais pas si je m'imagine, mais c'est quelque chose en quoi je dois croire. Et c'est là quand tu appelles mon nom. De l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. Merci.
Merci Julia Palombe.
Merci, Julia.
Et c'est toujours formidable de vous entendre chanter comme ça, en live, tout de suite, sur Bravo. Bravo.
Merci.
Le premier soir, elle chante, c'est incroyable.
C'est son vagin qui chante.
C'est pour ça que c'est musical.
C'est si musical. Bon, en tout cas, Julia Palombe, samedi qui vient là, hein, on vous retrouve dans le 4e au Note à 21h pour de nombreuses chansons de votre dernier album et des autres.
Tout à fait. Je serai accompagnée de mon gang. De musiciens à fond de testostérone et de riffs de guitare enflammés.
Ça sera sûrement encore un moment magique, donc samedi à 21h au Note Paris 4e. Voilà. Merci beaucoup Julia Palombe. Et c'est vrai que tout est amour, hein, finalement, que ce soit la nature, que ce soit les animaux et pourquoi pas les humains, après tout.
Il y a du boulot.
Encore un peu, oui, sûrement, même beaucoup. Alice, bonjour. Bonjour Alice.
Allô ?
Oui, bonjour Alice.
Ah, bonjour, excusez-moi.
Bonjour Alice.
J'ai éloigné mon téléphone, je patientais. Merci à vous de me recevoir dans votre émission et merci infiniment pour tous les bons conseils que vous donnez, qui sont hyper importants. Voilà.
Alors, vous avez plusieurs expériences hein, de sexualité un peu différentes pour justement pas vous ennuyer.
Oui, Mais disons que, bon, peut-être que j'ai été bien formée par un premier mari qui était très ludique, qui n'avait pas de... C'était n'importe où. C'était... Donc c'est vrai que pour moi, le sexe, c'est quand même quelque chose de... Voilà, qui... enfin, on doit s'amuser parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, on peut s'ennuyer. Et c'est vrai qu'avec mon second mari, par contre, on ne s'amusait pas. Donc pour moi c'était un petit peu déprimant et puis il n'était pas intéressé non plus par ça donc c'était compliqué. D'ailleurs je l'ai quitté pour ça.
La question que je vais poser, excusez-moi Alice, hein, je vous redonne la parole à Philippe Arlin. Ouais. On entend souvent homme ou femme ce terme. Enfin moi je l'entends souvent dans l'émission. Il était ou elle n'était pas intéressée par ça. Et la question que je me pose toujours, c'est est-ce que vraiment il y a des gens qui sont pas intéressés par le sexe ou est-ce que derrière c'est pas des inhibitions, des problèmes de culture, des ratages. Quel est votre avis, vous ?
Mon avis, c'est qu'il y a, tout existe. Donc, il y a sûrement des gens pas intéressés. Mais avant de pouvoir en arriver à cette conclusion, je pense qu'effectivement, il faut avoir fait le tour des inhibitions. Il faut avoir fait le tour des blocages, des problèmes, de la vision de la sexualité que la personne a acquise. Et il faut oser aussi affronter l'idée qu'il y a des couples qui ne fonctionnent pas ensemble.
C'est ça. Et qui donc, du coup, se désintéressent.
Voilà. D'où l'intérêt, peut-être, de le faire le premier soir. Parce que ça éviterait bien des déconvenues de se rendre compte que si on n'est pas compatible à cet endroit-là, c'est peut-être pas la peine de s'engager trop loin. Et là, je vous rejoins à 200%. J'avais pas besoin de l'étude pour ça, mais c'est une évidence. Parce que ça va jouer. On va laisser la parole à Alice pour nous l'expliquer.
Comment ça ? Vous n'êtes pas pour le mariage vierge, vous, Philippe Arlin ?
Le mariage vierge, c'est qui celui-là ?
C'est qui, oui, tout à fait. Non, mais bon, c'était surtout...
Bon, enfin, en tout cas, le deuxième, il n'était pas intéressé.
Était, voilà, il n'était pas... Non, mais les quelques fois où on le faisait, ça pouvait être sympa, sauf que bon, voilà...
Vu comment vous le dites, non. Ça pouvait être sympa, vous endormiez, quoi, carrément.
Non, parce que
non, elle faisait la liste des courses à faire.
Ça durait très peu de temps. Mais voilà, quand j'ai essayé de lui dire fais-moi ci, fais-moi ça, j'ai senti qu'il y avait des blocages. Je pense qu'il avait des blocages.
Il n'était pas bloqué, ça partait tout de suite.
Mais il y a, dans les détails, j'ai compris que la femme était quelque chose. Par exemple, quand j'avais mes règles, un jour je lui ai dit j'ai mes règles et tout. Enfin, je sais pas, j'avais mal au ventre, j'en sais rien ce que je lui ai dit. Et du coup, il s'est raidi, il me dit ah, mais je t'embrasse pas alors si t'es. C'était pas une plaisanterie.
Ouais,
hein.
D'accord.
Donc je me suis dit, bouf, tu dois avoir des sacrés blocages, toi, quand même. Indirectement.
Mais j'aime bien l'expression il s'était raidi.
mais pas où il faut. C'était la colonne vertébrale uniquement. Alice, vous pointez du doigt un truc très très juste et je pense que c'est important de le souligner. Nous les mecs, alors je veux pas faire de généralité mais il y a pas mal de cas qui confirment, on n'aime pas trop qu'on nous dise qu'on s'y prend mal ou qu'on aurait pu faire autre chose ou que on aime bien ne pas être mis en cause. On a un peu de mal à se remettre en cause sur l'oreiller. Alors quand une femme commence à nous dire ah bah je préférais que tu me fasses ça, très vite, elle va avoir le droit à son qualificatif d'emmerdeuse.
Ah oui, mais c'est au bout de 10 ans hein, que j'ai commencé à...
Vous vous rendez compte, vous mettez 10 ans avant d'oser. J'imagine bien. Non mais c'est réel, c'est un vrai problème. Je pense qu'on ne sait pas communiquer, là encore, autour de ce qu'on aimerait que l'autre nous fasse, parce que on est encore dans cette idée présupposée que l'autre devrait savoir. Mais non, c'est normal d'apprendre. C'est comme... rencontrer quelqu'un, il a une langue maternelle. Si on n'apprend pas un minimum sa langue maternelle, comment on veut communiquer ? Moi, je trouve normal d'expliquer à l'autre ce qui fonctionne sur mon corps ou ce qui fonctionne pas, et j'ai pas l'impression de dire à l'autre qu'il ou elle est disqualifié. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité et ça vient compliquer inutilement la sexualité.
Surtout que souvent on attend un peu longtemps avant d'oser.
Trouver. Voit le manque d'intérêt parce que quand on dit tiens certaines choses on voit que ça.
à la poubelle.
Voilà. Alors c'est vrai que donc il y a une période où j'étais seule et c'est vrai que je voulais me diriger un peu. Ben, je suis très curieuse de nature donc j'ai entendu parler du tantra. Bon, alors, je ne l'ai jamais fait parce que ce qui m'a un peu rebuté, c'est le prix des week-ends. Donc je savais pas comment m'y prendre pour rentrer. Après, il y avait des livres, mais bon, c'est un peu plus compliqué. J'ai dit pour moi, pour par curiosité personnelle. Et puis là, dans ma troisième relation, c'est vrai que j'ai découvert quelqu'un qui aime beaucoup les tenues, qui aime la mise en scène, qui est donc c'est très très agréable, qui aime bien que je sois voilà un peu soumise. Enfin voilà.
Donc c'est donc vrai que c'est
un autre domaine. Voilà, c'est un autre domaine.
Une autre forme de jeu, mais du jeu.
Oui, voilà. Oui, parce que j'ai acheté des dés, voilà. Où voilà, on joue. Et c'est vrai que moi, il est demandeur dans son mode d'emploi. Comme voilà, par exemple les dés et tout, il a adhéré, voilà, mais bon, pas plus.
Alors moi je vais vous dire une chose, voilà. Déjà Alice, ne regrettez pas votre éventuel stage de tantra, parce que si vous aimez être avec quelqu'un qui est un petit peu dans la domination, je pense pas que le tantra aurait été pour vous.
Et puis il y a plein de choses qu'on peut découvrir sans avoir besoin de faire un stage. Le tantra aime à s'auréoler d'une pensée magique. Le tantra, c'est aussi un retour à quelque chose d'extrêmement simple, authentique, le contact avec soi-même. S'autoriser à jouer, c'est aussi du tantra. Donc ne regrettez pas.
Oui, non, mais c'est une curiosité voilà, personnelle. Alors, vous me disiez que le troisième, ben, c'est... Voilà. Sauf que le troisième est infidèle. Enfin, il a une autre personne dans sa vie. Donc, c'est vrai que je vous avais appelé. Vous m'avez dit que quand on se sort de ce genre de choses, ça se passe, mais moi, j'y arrive pas.
Vous n'y arrivez pas.
J'y arrive pas. Le cerveau va... trop loin, j'invente des choses qui des fois n'existent pas. Je n'en parle pas trop, hein. Mais rien que de savoir qui c'est sans des textos et tout, ça me.
Mais c'est pas possible.
Je ne peux pas quitter le domicile où je vis avec lui pour des raisons financières. Enfin bon, il y a des problèmes. Je ne peux pas quitter le domicile, donc je suis obligée de rester. Donc je suis obligée d'être témoin de certaines choses. Après, j'ai négocié avec lui de ne pas passer la nuit dehors, de ne pas faire des choses comme ça, parce que ça, j'en pouvais plus.
Oui, c'est un peu beaucoup quoi,
voilà,
quand on
mais,
le supporte
mais
pas.
Mais je sais que ça existe et ça me. Et vous m'aviez dit qu'on ressort plus mature, enrichi de ce genre de choses, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais. Voilà,
non, mais attendez Alice, je vous ai. Conseiller, vu de toute façon vous n'avez pas la solution de le quitter visiblement. Hein.
Non, c'est pas possible.
Donc il faut trouver une autre solution. Bon, vous n'arrivez pas à dépasser votre jalousie et c'est tout à fait respectable parce que c'est difficile. Et donc.
Mais j'ai jamais été. J'ai jamais été.
Ben parce que vous n'avez peut-être jamais été confrontée à ce genre de situation. Vous savez,
avec mon premier mari, mais jamais ça m'a démoli comme ça. Jamais.
C'est souvent la manière dont on le ressent. Donc c'est très difficile à exprimer. C'est pas les situations en tant que telles qui peuvent se ressembler que la manière dont vous le percevez. Des fois, on va être blessé par un mensonge ou une manière de pas se sentir respecté. C'est pas tant ce que l'autre fait. Des fois, certains en font plus. Mais ils ont une manière de transmettre ou d'accepter de répondre, où on se sent moins trahi, nié.
Puis ça dépend,
et c'est souvent ça.
Ça dépend aussi de ce que vous avez mis dans la relation. Ça dépend de ce que vous avez, vous, par rapport à cette rivale. Parce que là, en l'occurrence, vous en voulez plus à qui ? À elle ou à lui ? C'est une question importante.
Un petit peu à elle, parce qu'elle a profité d'un moment où nous, on n'était pas bien. Et puis, je lui en veux à lui, parce qu'on a beaucoup discuté. C'est vrai que...
Alors, non, mais si vous deviez... vous avez la possibilité, de sans être puni par la loi, de tuer un des deux. Lequel des deux vous tuez ?
Je me sens aussi responsable, si vous voulez.
Non, mais c'est important, Alice, de répondre si vous voulez qu'on vous aide. Hein. C'est pas un piège que je vous tends.
Plutôt elle,
d'accord. Ouais, on va vous répondre dans un instant et on va essayer de vous aider, Alice. On se retrouve tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Philippe Arlin, on évoque les trop grands enjeux de la sexualité, et puis on évoque évidemment aussi toujours la jalousie, la rivalité. Alice, vous venez de nous confier que quelque part, vous êtes plutôt dans une rivalité là, et c'est pour ça que c'est si compliqué à en sortir. C'est plus difficile de sortir de la rivalité que de la jalousie, et c'est toute la problématique.
Mais c'est plutôt lui. J'ai réfléchi pendant... c'est plutôt lui à qui j'en veux. C'est plutôt lui.
Oui, d'accord. Donc, ça va faire deux morts, là. Il faut qu'on fasse attention, là. On va atteindre des quotas.
Non, je crois que c'est vraiment elle, il me semble. Parce qu'après, en réfléchissant, bien sûr, vous pouvez lui en vouloir, puisque c'est lui qui est votre maître, donc de ne pas gérer les choses comme un bon maître devrait les gérer. Mais je crois que vous êtes vraiment dans une rivalité, et sans doute que, enfin, je ne sais pas, mais sans doute que vous la trouvez plus jeune que vous, plus belle que vous.
Oui, il y a ça, mais c'est surtout que lui, il lui dit des mots gentils, des choses comme ça, et moi, non, jamais. Alors, c'est depuis le départ que c'est comme ça. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais avec toi, je n'y arrive pas.
Oui, mais vous n'avez... De toute façon, il ne vous gère pas comme il la gère, elle.
Oui.
Quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, quand on est... quand on a une relation parallèle, c'est pas la même chose, sinon ça sert à rien. On va pas prendre le clone. Il aurait pas pris le clone d'Alice pour avoir une relation extra-conjugale. On est d'accord, hein?
Oui.
Donc, si vous vous mettez toujours en rivalité avec elle qui reçoit ce que vous aimeriez recevoir, comment vous pouvez vous en sortir? C'est normal que vous souffriez énormément. Oui. Vous comprenez?
Oui.
Parce qu'au lieu de voir ce que vous avez avec lui et ce que ça vous apporte, vous voudriez ce qu'il donne à elle.
Oui. Oui.
Donc vous pouvez pas vous en sortir.
Vous allez dans votre manque, c'est-à-dire que c'est vous pointez du doigt juste ce que vous avez pas, et en vous concentrant là-dessus, évidemment, comme le dit Brigitte, vous perdez totalement des yeux tout ce que vous avez.
Mais je sais que j'ai beaucoup. Et c'est, je sais.
Mais c'est et c'est ça votre richesse, parce que il y a des choses que vous avez, pour rester sur le schéma de la rivalité, vous avez des choses que vous avez qu'elle n'aura jamais.
Ah mais ça, ne serait-ce que sur un sujet, elle n'est pas du tout portée, voilà. Donc je sais que tous les deux, on s'amuse énormément sur le sexe.
Mais alors, bon, voilà. Alice, ouais. dans votre situation, puisque là, moi je suis persuadée que c'est un problème de rivalité, dans votre situation, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous arrivez à pactiser avec elle.
C'est-à-dire?
à vous en faire une amie, une complice, une complice plutôt qu'une rivale. Bon,
virtuellement.
Pas forcément, pourquoi pas. Parce que vous savez, le désir mimétique, c'est René Girard qui a été le premier à en parler. C'est Jean-Michel Le Gourlian qui l'a fait découvrir en France. C'est vraiment quelqu'un de très proche avec qui j'ai beaucoup, beaucoup avancé sur cette question du désir mimétique. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est devenir complice avec la rivale, ou alors la tuer symboliquement.
D'accord.
Alors la tuer symboliquement...
On a bien précisé symboliquement.
Non, je ne suis pas violente du tout.
Voilà. Comment
pactiser avec elle, expliquez-moi, parce que je...
Ah, ça vous intéresse, ça.
Comment faire?
Bah, ça veut dire vous arranger pour en faire une complice et avoir des jeux avec elle. Et pourquoi pas, puisque vous êtes dans des jeux de soumission, pourquoi pas, je ne sais pas. Je vous connais pas, je ne la connais pas, je ne le connais pas. Donc je ne peux que vous donner les mécanismes et vous aider à moins souffrir. Parce
vous
n'avez
pas un exemple à me donner? Et ouais, parce que là, j'ai du mal à comprendre.
Elle sait que vous existez.
Oui, mais enfin bon, c'est pareil. Dans ces cas-là, on raconte ce qu'on a envie de raconter.
Mais non, mais vous arrivez à avoir son téléphone, j'imagine.
Oui.
Bon,
oui.
Vous lui envoyez un SMS en disant, je crois qu'on a des goûts communs. Et si on prenait un verre ensemble. Et vous
l'autre
la rencontrez.
De trouille, mais
non, mais vous le dites pas à votre, vous le dites pas à votre copain. Hein, vous allez la rencontrer. Et si ça se trouve, quand vous allez être en face d'elle. Vous allez vous rendre compte que c'est quand même pas une vraie bonne rivale, que quelque part vous êtes peut-être quand même un peu plus maligne, intelligente et.
Puis elle peut être sympa.
Parce que moi, ce qui me met quand même la puce à l'oreille, c'est que vous lui dites, vous venez de nous dire tout à l'heure qu'il lui envoyait des mots gentils. Donc elle doit être un peu plus fragile ou en tout cas moins femme que vous.
Oui, sûrement.
Bon, et ben alors vous allez reprendre le pouvoir. Et puis, une fois que vous aurez repris le pouvoir, vous allez reprendre confiance en vous. Et vous ne la verrez plus comme une rivale. Vous la verrez comme le petit 5 à 7 que peut se permettre votre compagnon pour qu'il vous fasse un peu moins chier. Et puis voilà.
Puis, pour reprendre une image, puisque vous êtes dans la domination, quand vous la rencontrez,
Ça sera pas possible. Je lui ai dit, il m'a dit si tu fais ça, ça sera terminé entre nous.
Restons au moins sur la symbolique de ça. Vous pouvez la rencontrer autour du fait que ce jouet dont elle profite, c'est votre jouet. C'est votre jouet. Alors tu le trouves comment mon jouet? T'as vu, il est sensible de ça. C'est-à-dire reprenez le pouvoir à travers lui. C'est-à-dire que c'est votre amant. J'étais là avant, ma chérie. Tu t'amuses avec, c'est bien, c'est chouette. Hein. T'as vu, il aime bien ça et tout. Bah ouais, je sais, moi, ça fait des années que je pratique avec lui. Il n'y a
mais
pas
ça,
de souci.
Dans ma tête.
Vous pouvez aussi vous le faire dans votre tête. Mais dans un monde où vous n'avez pas peur des choses, c'est juste pour dire, c'est dans les possibilités. Il y a aussi se rencontrer et être dans un truc en disant, bah, comme le dit Brigitte, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai l'impression qu'on a les mêmes goûts. Écoute, ça tombe bien, t'aimes bien ce jouet-là, c'est mon jouet, moi je veux bien te le prêter, même si c'est pas forcément ce que vous avez envie en tête, mais c'est une manière de reprendre le pouvoir. Et donc vous êtes plus en rivalité dans ce cas-là.
D'accord. Eh bien, ça demande à être...
Vous aurez... Écoutez, Alice...
Il y a un livre sur ce genre de choses. Il y a des choses que je...
Alors, sur le désir mimétique, je vous conseille le dernier livre de Jean-Michel Hougourlian qui s'appelle Notre troisième cerveau. Ah non, Jean-Michel Hougourlian. Alors, je sais que c'est un nom compliqué, mais vous allez le trouver. C'est chez Albin Michel, son dernier livre. Cet autre qui m'obsède. Voilà, c'est ça le titre exact du dernier livre de Jean-Michel Hougourlian, où tout est expliqué sur cette fameuse rivalité. Et quand on a compris ça, eh ben, on peut s'en sortir. Sinon, on ne peut pas se sortir de la rivalité et ça fait terriblement souffrir. Jalousie, on peut s'en sortir, mais la rivalité, on ne s'en sort pas. C'est pour ça que j'étais sûre que c'était un problème de rivalité.
D'accord. Parce que sinon, au niveau de mon cerveau, je sais qu'un jour, j'avais rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas duré très très longtemps, parce que bon, il avait d'autres défauts. Mais alors, il avait le don de me recadrer. On passait du temps au téléphone, et quand mon cerveau s'en va comme ça en délire, parce que pour moi, c'est du délire, il me recadrait, il me faisait revenir. Ouais, il me faisait revenir. Et c'est dommage que cette relation n'ait pas, parce qu'il m'apportait énormément.
Mais celui que vous avez là actuellement aussi, il vous recadre visiblement puisqu'il est un peu maître. Donc vous aimez, vous avez besoin en effet d'être un peu tenu, hein, en quelque sorte.
Oui.
Donc, mais je crois que c'est une belle relation que vous avez. Il faut juste que vous arriviez à résoudre ce problème de rivalité.
Il faut que j'arrête de souffrir.
C'est sûr.
D'avoir que le cerveau s'en aille. Et puis surtout des choses qui sont pas.
Oui, et surtout que de toute façon la souffrance, quand on ne la calme pas et quand on ne la comprend pas. Elle ne fait que se tourner en boucle et puis c'est des boucles de plus en plus lourdes, de plus en plus grandes et de plus en plus fortes. Voilà, donc c'est bien cet autre qui m'obsède de Jean-Michel Hougourlian.
Le troisième cerveau.
Le troisième cerveau.
Et dans le bandeau, cet autre qui vous obsède.
Merci Julia Palombe de votre aide rapide. Merci. Merci Alice.
Merci Alice.
Merci à tous les deux. Au revoir.
Je vous en prie. Bon, alors, on va continuer évidemment à jouer ensemble. Si vous avez envie de réagir sur Sud Radio 0826 300 300, je crois. Hein, la force de le connaître par cœur.
Voilà. On finit par jouer avec le numéro et l'oublier.
C'est ça aussi, hein, l'obsession. Alors, la petite devinette du jour. Philippe Arlin, figurez-vous qu'il y a une preuve tangible que le latin n'est pas une langue morte. Alors, je ne vous demande pas de me donner la réponse parce que je pense que vous pourriez la trouver, malin comme vous êtes. Donc, vous ne me la donnez pas. Je vous la donnerai après les infos, bien sûr. Et puis, vous pouvez continuer, bien sûr, à réagir. Si vous avez des idées pour que votre sexualité soit plus harmonieuse. Dans la deuxième heure, on recevra également François Bourgognon. Il est psychiatre, mais c'est pas un psychiatre comme les autres. Tout va bien. Il sera avec nous. Et puis, je vous proposerai aussi de jouer Philippe Arlin avec cet oracle de l'amour. C'est des cartes qui sont sorties au courrier du livre de Monique Grandet et c'est pas inintéressant. On en parle après les infos de tout ça.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Durant cette deuxième heure, on va continuer à vous proposer des petits jeux pour justement ne pas vous ennuyer dans votre sexualité. On évoquera aussi comment mieux terminer sa vie avant de l'avoir commencé avec François Bourgognon qui va nous rejoindre. Et puis Philippe Arlin, je crois que vous aviez la réponse à ma devinette, hein, je suis sûre. Vous aviez trouvé.
Allez, un petit cunnilingus.
Exactement. Quelle est la preuve que le latin n'est pas une langue morte? C'est tout simplement, en effet, parce que le cuni est en pleine expansion. Voilà. Alors, on va donner la parole à Marc dans un instant, mais je vous avais promis aussi de vous parler de cet oracle de l'amour. Ce sont des cartes qui parlent d'amour, évidemment. Alors, j'ai demandé à Philippe Arlin d'en tirer une. Vous avez tiré la carte 23. C'est donc le balai amoureux. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est que si vous vivez une relation amoureuse avec quelqu'un, vous tirez une carte. Enfin, c'est le principe de tous les jeux de cartes divinatoires, hein, en fait, hein, Philippe Arlin. Et puis, tout d'un coup, vous allez lire des choses sur votre relation. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera totalement vrai ou totalement... Mais ça peut vous éclairer sur votre relation. Alors là, moi, je lis « Observe la manière dont tu mets le pied dans le bonheur. Ta relation avec l'être aimé serait-elle un havre de tendresse ou un musée glacial ?» Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, l'amour dans son balai à travers vous, voilà, bon, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Donc il y a plusieurs, il y a évidemment pas mal de cartes, je sais plus exactement combien il y en a, mais voilà, et je trouve que l'intérêt,
sont
il y a 40, c'est joli, hein,
oui,
c'est vraiment
d'un point de vue graphique, c'est agréable.
Voilà, et puis moi j'aime bien la carte 40 parce que c'est l'amour heureux, voilà, hein. Bon, en tout cas, ça peut vous aider à voir un peu plus clair dans votre relation d'amour. Voilà, ça s'appelle l'oracle de l'amour et c'est aux éditions Les Presses. Le Courrier du Livre, pardon. Alors, Philippe Arlin, c'est Marc maintenant qu'on retrouve. Bonjour Marc.
Bonjour Brigitte. Bonjour
Marc.
Philippe.
Quelle voix voilà. Dynamique, Marc.
Ah oui,
alors, bon, je vais raconter mon histoire.
J'espère bien. Ça va me faire une petite pause. Allez-y, racontez votre
d'accord,
histoire.
D'accord, allez-y. Alors, donc, au début de notre histoire amoureuse, la sexualité marchait à plein régime.
Ah, ça c'est madame, curieux.
Madame qui
comme
avait
c'est
également...
original.
Oui, vous voyez, je suis comme les autres.
Hein. C'est bien, c'est rassurant.
Madame avait, pareil, toujours envie, ça marchait tout seul. Mais maintenant, quelques années plus tard...
Quand vous dites que ça marchait tout seul, c'est votre pénis qui marchait tout seul?
Ah oui, marchait, oui, pas de problème.
Bon.
Donc maintenant, quelques années plus tard, il nous arrive, le soir arrivé, de dormir l'un contre l'autre, ou l'un à côté de l'autre, tendrement, même pendant une semaine, sans passer à l'acte sexuel. Mmh. On a beau dire, mais avec le temps, en général, une fois avoir connu une période torride, très varié au niveau intime, on se calme. Donc à la demande de ma compagne, qui désirait une autre sexualité que le traditionnel préliminaire, et puis ensuite le traditionnel va-et-vient même dans différentes postures, elle m'a orienté vers le tantra. Mmh. Donc on revient un petit peu à la précédente personne qui... voilà. Donc on a trouvé des week-ends, en effet, c'est pas donné, au niveau prix... Mais on trouve quand même des tantras à des prix différents. Il faut dire que, vu que j'en ai testé plusieurs, il y en a qui sont de qualité, mais il y a du n'importe quoi également.
Mmh. Merci de le dire, Marc.
C'est important parce que ça devient un mot marketing, le tantra.
Mais ça rapporte beaucoup. En plus, il y en a beaucoup qui demandent de payer en espèces.
Oh, voilà. Comme c'est curieux.
C'est plus érotique.
Voilà. Et puis donc, souvent, on peut être très nombreux, donc ça rapporte beaucoup pour ceux qui organisent.
Cela étant dit, encore une fois, il y a des gens très très bien, mais c'est vrai qu'il y a.
Mais il faut savoir les chercher.
Oui.
Voilà. Bon, mais.
Mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Parce que c'est quand même ça l'intérêt.
Oui, tout à fait.
Et alors quoi?
Là, on est dans une. Alors, on parle de tantra. Moi, je dirais plutôt. Tantra slow sex, pour moi, c'est un petit peu pareil. Après, on parle de sexualité sacrée. Pour moi, ça va trop loin.
D'accord.
Mais on a trouvé.
C'est-à-dire que sexualité... ça vous a appris peut-être un peu plus à profiter de l'instant présent et puis à être plus dans le ressenti et dans les sensations, quoi, en fait, c'est ça?
Oui, on prend beaucoup plus le temps. On peut commencer par prendre un bain ensemble, faire une séance de massage, boire un thé ensemble, et puis après prendre du temps de se regarder, en préparant une salle une pièce qui est bien chauffée, allumer le poêle à bois, etc. Avec une ambiance
on voit en effet que c'est peut-être pas la peine d'aller payer beaucoup d'argent pour apprendre tout ça.
C'est ce que j'allais dire. Il s'agit simplement d'être au présent. On est dans ce qui, heureusement, aujourd'hui se développe, qui est tout cette pensée autour de la méditation de pleine conscience. Et sans garder le mot même méditation, il s'agit juste d'être présent à ce qu'on fait. Et on est juste en train de découvrir aujourd'hui que la sexualité n'échappe pas à tous ces moments où on est là sans être là, où on est là d'une certaine manière avec son corps et d'une autre avec son esprit, et que tous ces rituels dont vous nous parlez, qui sont des rituels du quotidien, c'est-à-dire prendre le temps déjà de ralentir sa vie, parce qu'on n'arrive pas dans la sexualité en quittant la cuisine pour passer dans la chambre à coucher. Il faut aussi passer différents paliers qui laissent aussi, accompagnent le désir et lui permettent de monter. Il faut, oui, être attentif. Ça peut être effectivement se couler un bain, prendre une boisson, créer une ambiance agréable. C'est revenir vers soi, revenir vers un état d'esprit plus axé sur nos propres sensations et plus sur notre envie de donner du plaisir. Mais, excusez-moi, et je reviens sur ce que dit Brigitte, il n'y a pas besoin d'aller se payer un stage de tantra pour ça. Ça s'appelle du bon sens. Ou, dans ces cas-là, ça peut s'appeler du slow sex. Et les stages de slow sex, qui sont très intéressants, sont beaucoup moins chers.
Voilà, oui. Cela étant dit, il y a quand même, je ne vais pas citer de nom spécialement là, parce que je ne les ai pas en tête, mais il y a quand même quelques personnes qui font réellement une sexualité sacrée et qui sont intéressantes sur un plan spiritualité.
Mais c'est autre chose que ce dont on vient de parler. Ça, c'est éventuellement l'apéritif de ce qui pourra mener à un travail de tantra qui prend des années.
Voilà, et de toute façon, Marc, je vais vous dire une chose, aller faire du tantra, si on n'a pas fait soi-même un éveil personnel, c'est pas la peine, parce que de toute façon, on va découvrir en effet le fait de prendre son temps, d'être dans ses sensations.
Mais, ce qui est déjà bien.
Ce qui est déjà très très bien, mais c'est tout, on n'ira pas plus loin.
Non. Par contre, bon, mais c'est vrai, quand on trouve un bon stage, soit de slow sex ou de tantra, il y a une énergie de groupe.
Bien
c'est
sûr.
Pas la peine d'y aller 36, c'est comme quand on médite, on médite à deux ou dans un groupe, c'est pas pareil, il y a une énergie qui se crée, qui est différente.
Bah, c'est comme écouter un disque tout seul ou aller à un concert, hein. C'est pareil. Hein.
Oui, tout à fait. Donc il y a quand même...
Il y a une mise en résonance, tout à fait.
Je pense que c'est bien,
mais
si
c'est
on
très
a
bien.
Envie...
En tout cas, ça vous a fait du bien.
D'en faire un, mais de trouver un bon, quitte à payer le prix.
Bien sûr.
Après, il y a ce qui est vraiment très cher, c'est quand on y va en couple, parce qu'il y en a des séances spéciales couples qui sont en général de qualité, et puis qui vont plus loin que dans le tantra traditionnel, comme on fait, parce que souvent il y a des stages auxquels j'ai assisté où il y avait beaucoup de célibataires. Donc c'est pas.
Mais écoutez, Marc, puisque ça vous a coûté cher, est-ce que ça vous a rapporté beaucoup?
Globalement, quand même.
Bon, voilà, c'est ça qui compte.
Voilà.
C'est ça qui compte.
Mais il y en a qui m'ont rien apporté. J'en ai fait plusieurs. Hein.
D'accord.
Mais il y a parce qu'il y en avait, c'est du n'importe quoi. Voilà, bon, mais c'était plus du touche-touche pipi qu'autre chose.
Ben oui.
Cela dit, ça prend une place, le touche pipi, mais on n'est peut-être pas obligé de payer pour ça.
Oui, voilà. Donc c'était plus de la distraction que vraiment un apprentissage.
Non, et puis est-ce qu'il faut se méfier aussi, Marc, et là je le dis plus aux femmes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont tentées par le tantra que d'hommes. Faites attention, mesdames, parce que vos hommes vont peut-être dire « Ok, on va en stage de tantra » parce qu'ils vont se dire « Chic, je vais pouvoir toucher une autre femme ». Et alors là, ça s'appelle plus du tantra, ça s'appelle du libertinage.
Oui, tente-moi, ça s'appelle.
Oui. Mais dans les groupes sérieux, en général, on ne sépare. Il y a des activités qu'on peut faire avec d'autres personnes, mais dès qu'on rentre dans l'intimité, c'est avec son partenaire.
En principe, si on reste bien, oui, mais c'est pas partout pareil comme ça non plus. Moi, j'ai déjà malheureusement eu des personnes en souffrance à cause justement de mauvaises expériences de ce genre. Donc, il faut être très prudent. Hein.
Mais souvent, c'est pas encadré. Enfin, c'est pas des vrais profs. Enfin, ils se disent des thérapeutes ou mais c'est pas forcément vrai. Hein.
Vous savez, Simplement, moi, ça vient éveiller quelque chose sur le thérapeute que je suis. L'idée d'encadrer la sexualité des autres, moi, ça sonne faux à mes oreilles. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on donne les éléments, mais chacun se débrouille de son côté. Parce que encadrer, ça veut dire avoir un regard. Et là, pour moi, c'est un regard de trop.
Oui. C'est comme un psy qui donnerait des conseils que son patient doit faire.
Non, mais moi, j'ai un jour des patients qui sont venus me voir en me disant « À quel moment on va devoir le faire devant vous ?» Plaît-il ? Jamais. Et ils ne sont jamais revenus. Il y a eu une époque, et ça, la télé est un peu responsable de ça, où il y avait des reportages sur ce qui se passait chez les sexologues. Et effectivement, il y avait plus ou moins des pratiques de groupe. Et ça n'a rien à voir avec notre métier, je tiens quand même à le préciser. Et il n'y a pas de... Même dans le cadre d'un stage, je pense qu'il n'y a pas besoin de pratique. La pratique, elle peut être expliquée. Et chacun, après, se donne les moyens. C'est important.
Parce qu'il y a même des... Bon, il y a des stages auxquels j'ai participé de tantra où on est dénudé, comme on veut. Mais il y en a d'autres qui sont habillés ou juste on garde des sous-vêtements, vous voyez.
Oui, maillot de bain ou sous-vêtements, hein, bien sûr.
On laisse les gens quand même libres, hein, voilà.
Bon, en tout cas, vous en gardez plutôt, enfin, vous en avez plutôt des bénéfices, bon,
donc c'est important.
Je suis parti dans un état où je me sens plutôt bien équilibré, mais ça peut être perturbant pour des personnes qui traversent une période difficile ou qui sont fragiles sur le plan psychologique. Voilà.
Ben merci Marc de votre témoignage, merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant et puis on va parler des amours de Marie-Antoinette avec Anaïs Deban qui nous rejoint. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer à réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Alors Philippe Arlin, on retrouve Anaïs Deban et comme toutes les semaines, vous allez nous raconter une histoire d'amour, alors un peu à perdre la tête. Hein.
Une histoire d'amour. D'abord, je vais vous lire un extrait de Marie-Antoinette, la mal-aimée d'Hortense Dufour. Il l'aime, il la désire, mais son infirmité physique demeure la plus forte. Marie-Antoinette endure son supplice. Ce lent progrès est devenu une infernale obligation de concevoir un enfant. Elle fuit dans les bals, les sorties nocturnes, les toilettes, les bijoux, l'équitation et la charité. Ils parlent d'amour, mais la souffrance tournoie dans leurs yeux quand, au petit matin ou au cœur de la nuit, ils tentent cet amour-là, celui qu'on attend d'eux. On parlait d'enjeux tout à l'heure.
Là, il y en a un.
Là, au-dessus de ces deux ados, il y en a. Alors, on est au XVIIIe siècle, la France et l'Autriche se disputent l'Europe. Les deux pays décident finalement de se faire l'amour plutôt que de se faire la guerre pour pouvoir évidemment mieux la mettre au reste du continent. Enfin, faire l'amour, c'est vite dit. Marie-Antoinette a 14 ans, Louis XVI en a 15, le prince est timide. Les deux amants ne sont pas très expansifs, alors il leur faudra 7 ans avant de consommer le mariage.
Il avait un phimosis, en fait, hein, Louis XVI.
Un phimosis où il avait l'urètre déplacée vers en bas. Je pense qu'il avait l'urètre en bas, ce qui lui empêchait au moment de l'éjaculation. C'était plus un problème d'urètre. L'urètre n'était pas placé. N'était pas placé au bon endroit.
D'accord.
Et au-delà des douleurs, il y a eu aussi un moment, ils n'arrivaient pas à se rencontrer. Ils n'y arrivaient pas, ils étaient timides, c'était froid. Alors seulement à l'époque, on est un peu à cheval avec les dates de péremption et donc il fallait consommer. Et on leur demande de se manier un peu. Déjà pour rassurer le peuple quant à la virilité du roi, parce que tout le monde s'en foutait, douleur ou pas douleur, il fallait qui bande, et puis aussi pour mettre au monde un héritier. Alors on envoie même un oncle autrichien de la reine pour leur donner des conseils, et le Philippe Arlin de l'époque fera du bon boulot, puisqu'un an plus tard naît leur premier enfant. Alors c'est une tannée...
Mais de qui alors? De Philippe Arlin ou de Louis XVI?
De Louis XVI.
Je l'ai un peu poussé, j'avoue.
Alors elle n'a pas du tout l'habitude de tout ce protocole, hein. elle est plutôt frivole, hein. C'est ce qu'on a toujours dit d'elle, en même temps c'est normal, hein. Tout est frivole comparé à la rigidité de l'étiquette versaillaise. Alors à son premier accouchement, on fait venir tout un tas de personnes pour être sûr qu'il n'y aura pas usurpation. Si bien qu'au troisième enfant, elle décide de cacher à tout le monde le début du travail parce que ça lui était insupportable de se faire regarder comme ça pendant l'accouchement. Et alors la chambre n'a pas eu le temps de se remplir qu'elle avait déjà livré le paquet royal. Quelle femme! En tout cas, ils ont beaucoup souffert des rumeurs de la pauvreté de leur vie sexuelle. Vous imaginez, vous, un roi impuissant Alors pour n'importe quel homme, hein, c'est compliqué. Mais alors pour un roi, il faut dire ça faisait contraste, puisque avant lui, on avait eu Louis XV, l'amant insatiable aux 60 concubines, une bête de sexe. Et là, avec Louis XVI, on est plutôt sur une bête de foire. Et partout, on cherche à le ridiculiser. Autrefois, dans des règnes plus libertins, c'était d'abord le roi que ces dames cherchaient à séduire. Sous Louis XVI, elles y avaient renoncé. Le roi Louis XVI était tellement chaste que s'il lui arrivait d'adresser un mot à une dame, ce ne pouvait être qu'à une personne âgée. Voilà ce qu'écrit Chantal Thomas dans Les Adieux à la Reine. Le roman raconte les dernières heures de Marie-Antoinette à Versailles, racontées par sa lectrice, éperdument amoureuse de la reine, mais celle-ci n'a Dieu que pour Gabrielle de Polignac. Une favorite dont la reine est proche, trop proche selon le peuple. Et ce roman a donné lieu à un film qui porte le même titre et je l'ai vu récemment. C'est d'une sensualité folle, hein. Le moindre secret chuchoté à l'oreille fait l'effet d'une caresse érotique. Les femmes se tripotent tout le temps. La reine est entourée de jolies femmes et franchement on espère à chaque séquence l'avoir consommé un amour lesbien mais ça ne vient pas.
Alors, ben... Là aussi elle n'y arrive pas.
Mais c'est bien connu, de toute façon, toute favorite est une putain qui a su charmer quelqu'un à la cour. Et comme visiblement ça pouvait pas être Louis XVI, eh ben on se rabattait tous sur la reine. Mais très vite, on dit donc que la reine a un penchant pour les femmes et elle aura aussi une liaison avec le frère de son mari, le comte d'Artois. Parfois même avec les deux en même temps. Enfin, ça c'est ce qu'a volontiers imaginé Beaumarchais dans Les Amours de Charlot et Toinette, 10 ans avant la Révolution. Et pendant toutes ces années, des pamphlets, des petits textes pas tant érotiques qu'obscènes hein, vont circuler un peu partout. Ils portent tous des titres absolument sublimes, hein, Fureur utérine, Bordel royal ou encore L'Autrichienne en goguette. Alors au début, ça fait rire la...
Alors ça circulait évidemment sous le manteau, j'imagine, parce qu'à cette époque-là, il y avait la censure
royale. Et personne ne pouvait contrôler ça, c'est-à-dire que je pense que le cul ne s'est jamais aussi bien vendu.
C'était Internet avant alors, ouais, bah... les réseaux sociaux.
Ça a toujours été.
Il y avait des gardes partout dans la ville pour essayer de choper les textes et puis on n'y arrivait pas, c'était tout le monde s'y mettait. Alors au début ça a fait rire la reine hein, qui était donc assez frivole et qui écrit même à sa mère « On me prête deux goûts, celui des femmes et des amants ». Mais bon, c'est vrai qu'un amant, elle en a eu au moins un. Axel de Fersen, un jeune noble suédois qu'elle rencontre au bal masqué alors qu'elle n'a que 19 ans. Elle est mariée, mais elle n'est pas encore reine. La dauphine serait tombée éperdument amoureuse de lui dès leur première rencontre et elle aurait murmuré ce soir-là à l'oreille « Je vous aime ». La rumeur va bon train, Fersen quitte Versailles et il n'y reviendra que quelques années plus tard. Pendant 2 ans, ils partageront l'insouciance d'une jeunesse qu'on a voulu leur dérober un peu trop tôt. Ils aiment dépenser sans compter, ils aiment les fêtes et les nuits blanches. Et il partira à nouveau en 1780, ne reviendra qu'en 1783. Marie-Antoinette est enceinte quand il revient et il tisse cette fois un amour qui va bien au-delà d'une camaraderie sensuelle. Il sera toujours là en 1791 quand il faudra exfiltrer la reine car la famille royale est assignée à résidence aux Tuileries. C'est lui qui planifie l'évasion de la famille. Mais le plan échoue, la famille est arrêtée à Varennes et reconduite à Paris. Il fera tout depuis Vienne pour former une coalition étrangère afin de sauver la reine d'une mort certaine. Mais elle sera décapitée le 16 octobre 1793. Alex de Fersen, paraît-il, pleurera tous les 16 octobre, du matin au soir jusqu'à la fin de sa vie, en souvenir de Marie-Antoinette. Alors, on a longtemps assimilé hein, cette frivolité, cette liberté à un désir sexuel qu'on ne pourrait... insatiable, quoi. Parce que pour prouver sa pureté, il faudrait être froide, sévère, morose. Alors, on se sert donc de la frivolité de Marie-Antoinette, cette jeune Autrichienne, pour désacraliser un roi qu'on juge trop mou. Alors, loin de moi l'idée de prouver que Marie-Antoinette était une bonne reine de France. Hein, c'est pas mon boulot. Et puis, j'en ai pas grand-chose à faire là, dans nos histoires. Mais ce qui est intéressant avec cette reine, ce n'est pas tant les liaisons qu'elle a pu avoir, mais c'est ce que la rumeur est aussi un peu le fantasme collectif, comme à chaque fois, hein, ont bien voulu faire d'elle. Et on voit bien qu'à chaque fois que l'on veut discréditer une femme, on lui prête une sexualité débridée, nymphomane étant l'adjectif le plus diffamatoire. Et encore une fois, ma conclusion va dans ce sens. Hein. Julien parlait tout à l'heure de la sexualité comme ciment de l'humanité. Et moi, je pense aussi que le sexe est au cœur de tout. On s'en sert même pour déstabiliser une monarchie qui n'a plus d'âge. On s'en sert pour faire chanter les politiques. C'est une arme, la sexualité. Parce que s'il y a bien un endroit où on se retrouve tous, c'est bien dans nos failles face au désir. et à l'amour. Et une dernière petite anecdote, quand j'étais petite, mon père m'emmenait de temps en temps à Versailles, et à chaque fois sur les chemins pavés du Trianon, il me disait « Tiens bébé, embrasse ce pavé, là Antoinette a peut-être pissé dessus ». Et j'ai jamais trop, compris pourquoi j'étais petite et mon père n'a jamais vraiment été royaliste. Mais là, d'un coup, il prêtait allégeance à cette reine comme ça. Et puis finalement, je crois qu'il a simplement une tendresse infinie pour ces femmes qu'on a décidé de jeter en pâture. Et ça doit venir de là, mon goût pour les scandaleuses.
Mais c'est vrai qu'elle a servi d'écran de fumée aux incapacités de Louis XVI, ça c'est certain.
Oui, bien sûr.
Oui, enfin, qui héritait quand même d'un pays particulièrement...
Oui, je parle juste sur le plan sexuel. C'est-à-dire que c'était plus facile de parler de la liberté soi-disant de Marie-Antoinette que de l'incapacité du roi. C'est vrai que ça posait problème. C'est toujours les femmes qui prennent dans ces cas-là.
Bah oui.
Enfin là, elle prenait pas grand-chose avec lui.
Non, avec lui, non.
Elle prenait pas cher, non.
Merci en tout cas Anaïs Debande de cette façon toujours de nous ramener
au petit Trianon.
Oui, si vous voulez. Bon, allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaie. Sud Radio.
Alors Philippe Arlin, je le disais en plaisantant, hein, il est psychiatre et c'est étonnant quand oui, on lit oui. son livre. Non, je plaisante, j'ai plein d'amis psychiatres.
Ah bon
François Bourgognon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune psychiatre et vous venez de sortir ce livre « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé ». C'est aux éditions First et on pourrait dire, hein, comme ça, c'est un livre de pleine conscience, hein, dans la lignée des livres de pleine conscience, en quelque sorte.
Alors... Oui, il est question de pleine conscience, mais pas seulement.
Non, bien sûr.
En fait, c'est un ouvrage dans lequel j'ai voulu un petit peu expliciter, moi, toutes les clés que j'avais pu apprendre à travers diverses approches psychothérapiques, toutes les clés que je juge essentielles dans une perspective d'épanouissement ou d'accomplissement personnel. Et alors, moi, je viens des thérapies cognitives et comportementales. La pleine conscience est arrivée aussi en psychothérapie dans cette école-là au départ. Et puis, on a développé, dans les années 80, c'est l'équipe de Stephen C. Hayes, qui est un psychologue américain, qui a développé une thérapie qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui en fait est un petit peu le prolongement psychothérapique de la méditation de pleine conscience. Dans laquelle on va pouvoir développer les dimensions qui sont liées à la pleine conscience sans forcément avoir besoin de passer par une pratique très assidue de la méditation.
Absolument.
Voilà, donc je parle beaucoup de cette thérapie et c'est une thérapie qui est très souple et qui permet aussi d'intégrer des apports issus d'autres approches. Et donc je me suis formé aussi par ailleurs à l'hypnose, à d'autres approches, et donc je parle de tout ça.
En tout cas, je tiens à le préciser, c'est un livre très, très grand public dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut vraiment comprendre des choses qui sont parfois un peu abstraites, mais là vous êtes vraiment très concret, vous donnez des exercices tout au long du livre. Alors moi j'aime bien déjà la première partie, c'est de distinguer le bonheur du confort.
Oui.
Et c'est vrai qu'on entend toujours qu'on a envie d'être heureux, le bonheur, machin. Bon, déjà, si on sort de l'inconfort, c'est déjà pas mal, quoi.
Tout à fait.
C'est ça. Hein.
C'est le postulat vraiment de départ, en fait. C'est de dire qu'il y a une grande différence entre le confort et le bonheur. Et quand on pose la question à nos aînés à la fin de leur vie, quand on leur demande quels sont les plus grands regrets dans votre vie, nombre d'entre eux nous répondent « En fait, j'aurais dû me donner les moyens d'être plus heureux. » Entendu comme la prise de conscience sur son lit de mort, qu'il y a une différence majeure entre le confort et le bonheur, et qu'en fait, être heureux, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard, et qui nécessite qu'on s'y engage activement. Et même très souvent, en fait, ça nécessite qu'on embrasse de l'inconfort. Il y a une métaphore, moi, que j'aime énormément, parce que je trouve qu'elle explicite
celle
parfaitement.
Celle des sables mouvants, hein.
Celle des sables mouvants, mais il y a celle aussi
Moi, j'aime bien celle des sables mouvants, formidable. Non, allez-y, je vous en prie.
C'est celle qui consiste à dire, imaginez que vous soyez alpiniste, et que c'est votre vie, et toute votre vie, vous avez rêvé d'escalader un mont qui se situe à l'autre bout de la planète. Vous avez beaucoup lu sur cette montagne. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et arrive enfin le jour où tout est réuni, où vous pouvez faire le voyage et aller escalader cette montagne. Et vous arrivez au pied de la montagne, et c'est une grande surprise parce que jamais personne ne vous l'a dit, mais cette montagne est cerclée par des marécages. Vous faites le tour, et il n'y a pas moyen d'y échapper. Si vous voulez gravir cette montagne, il va falloir traverser les marécages. Et là, vous avez seulement deux options. C'est soit vous choisissez le confort et vous faites demi-tour parce que vous ne voulez pas vous mouiller, soit vous faites le choix de traverser les marécages, alors pas pour vous y complaire, mais simplement parce
pour réaliser votre objectif et votre rêve.
Exactement. C'est parce que c'est un inconfort incompressible pour pouvoir avancer vers quelque chose qui donne du sens à votre vie. Mmh. Et alors le piège, c'est de penser qu'on peut tout avoir, et le confort et le bonheur. Et alors à ce moment-là, on commence par s'assurer d'abord de notre confort, et après on est figé.
C'est joli, hein, Philippe Arlin. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup amusée. Pour être conscient d'un geste, il faut le faire d'une autre main. Alors je me suis dit que il faut se masturber avec l'autre main de temps en temps, c'est ça?
Ça peut aider. Hein. Ça peut aider à trouver le rythme.
Je laisse les spécialistes.
Non, mais non, la question.
Non, mais c'est, vous pouviez pas y échapper, hein, François. Oui, Bourgognon, vous vous en doutiez quand même.
Oui, je m'en doutais.
Bon, alors il y a aussi quelque chose d'intéressant. Hein, vous essayez, vous essayez pas. Vous réhabilitez la méthode Coué aussi dans ce livre, hein, qui est très critiqué, mais à tort d'ailleurs.
Hein. Bah oui, moi je suis plutôt adepte aussi. Je pense qu'elle a. Elle a son utilité, en tout cas.
Bah, disons que je suis psychiatre nancéen, donc et c'est une star locale. Hein, Émile Coué était à Nancy, et je pense que sa méthode est à tort considérée comme une méthode de bourrage de crâne, qui consisterait à se répéter de façon incessante. Je vais bien, tout va bien. Pour s'en persuader, or c'est quelque chose, c'est assez réducteur en fait. Et Émile Coué était, de mon point de vue, je pense, un véritable génie, et qui avait compris que et qu'il a enseigné finalement de façon assez simplissime au monde, qui avait compris que ce que représente notre esprit peut avoir un impact réel sur notre organisme et sur nos capacités à accomplir certaines choses. Moi, l'exemple que je prends, parce que c'est celui qui m'a tout de suite parlé. C'est si vous demandez à vos glandes salivaires de saliver, que vous leur demandez de façon assez frontale, ça va être un peu compliqué. Maintenant, si vous vous imaginez en train de mordre dans un citron acide et que vous commencez à fournir votre effort d'imagination pour percevoir l'acidité dans votre bouche, le jus, etc., ça vient beaucoup plus facilement. Et effectivement, Émile Coué avait compris ce pouvoir de l'imaginaire, c'est cette ressource-là. Et donc, il avait proposé donc sa fameuse méthode pour essayer, en tout cas, d'améliorer les conditions médicales de ses patients.
Absolument. Alors, François Bourgognon, restez avec nous, puisque là, je crois, Philippe Arlin, on a quelqu'un qui s'appelle Maria et qui voudrait parler du slow sex. Le slow sex, finalement, ça vous parle? C'est aussi une prise de conscience, de lâcher prise, d'acceptation.
Il y a aussi des marécages à traverser, quelquefois.
C'est vrai. Bonjour Maria.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe et bonjour à votre invité également.
Bonjour
Merci
Maria.
Beaucoup. Voilà. Oui, je souhaitais intervenir pour parler du slow sex parce que après avoir avec mon mari, nous sommes mariés depuis 40 ans et nous avons souhaité nous initier d'abord au tantrisme et nous avons découvert avec bonheur, avec joie, on va dire cette pratique. Mais nous nous y sommes aussi un peu perdus et on a un peu perdu pied. Je vous avais appelé à l'époque et vous m'aviez conseillé, Brigitte, de découvrir le slow sex. Donc j'ai suivi votre conseil et je me suis j'ai trouvé le livre que vous m'aviez conseillé de Stéphane Vazet, Laissez faire l'amour.
Absolument, c'est un livre magnifique.
Oui. Exactement, voilà, et qui rejoint tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui rebondit très bien sur le livre du monsieur là, qui vient de parler là.
François Bourgognon.
Voilà, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. J'ai trouvé des échos, effectivement. Je suis allée sur.
Mais c'est vrai que Maria, excusez-moi, je vous coupe, hein, mais je vous redonne la parole tout de suite. C'est vrai que si on fait l'amour un peu plus dans tout ce que vient de dire François Bourgognon, on est dans le slow sex.
Oui, voilà, exactement.
C'est juste, c'est juste du bon sens. Hein.
Oui. Et donc, moi, je suis allée sur le site également de Stéphane Vazet et je me suis aperçue, j'ai découvert qu'il proposait aussi des stages. Et avec mon mari, donc il y a très peu de temps, juste avant les fêtes de fin d'année, nous avons suivi un petit stage avec Stéphane.
Il est en Suisse, hein, je crois.
Oui, mais il pratique des stages, il organise des stages soit en France, soit en Belgique, et en Suisse également. Et donc là, c'était en France, pas loin de la frontière suisse d'ailleurs. De quelques jours et on a vraiment vécu quelques jours absolument délicieux et très intéressant sur le plan du couple avec d'autres couples et donc on a mis en pratique et on a pu comparer un petit peu puisqu'on parlait du tantrisme dans l'émission là, c'était très très intéressant, du tantrisme et du slow sex et donc j'ai vécu les deux expériences assez rapidement, et les deux m'ont apporté quelque chose vraiment, nous ont apporté au niveau de notre couple. couple.
Mais alors, quelle différence vous feriez entre les deux, Maria?
Voilà. Alors, pour moi, la différence, c'est que le tantrisme est quelque chose qui est très très ancien. Hein, c'est pas du tout. Ça fait date de plusieurs de très très anciens. C'est une pratique de yoga. C'est une mise en pratique. C'est une forme de yoga. Donc qui fait intervenir le massage, la danse, les postures de yoga et qui aboutit à une union sacrée, on sacralise la sexualité. Dans le slow sex, il y a beaucoup du yoga puisque Stéphane Vazet s'est inspiré du tantrisme, il a lui-même pratiqué, il en a pris l'essence, on va dire une certaine partie, mais également il a deux autres approches. Il a également il s'est inspiré d'une approche reichienne. Vous connaissez certainement Wilhelm Reich le corps.
Alors, Wilhelm Reich, il y a à apprendre et à ajouter. Hein. Voilà. On est avec un psychiatre, il a quand même terminé bien fou. Hein.
Voilà, exactement. Mais par contre, ce qui a été intéressant dans son approche, au moment où il n'était pas fou, c'est qu'il a impliqué le corps dans les soins. Voilà. Et je pense que Stéphane Vazet, je pense qu'il s'est inspiré du fait d'impliquer le corps justement dans le slow sex, puisque c'est une dimension essentielle. Il s'agit de faire l'amour avec beaucoup de lenteur et de tranquillité, pas de performance, mais vraiment dans le but que le couple se rencontre avec beaucoup de douceur et d'amour. Voilà. Et puis également avec une autre approche, Barry Long. Je ne sais pas si l'un de vous trois connaît.
Oui, je connais, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Enfin, alors, donc, je ne le connais pas personnellement, lui, en revanche, mais j'ai lu aussi son.
Voilà. Il s'est inspiré du livre Faire l'amour de manière divine. Donc, il a croisé ces trois approches et il a créé donc ces stages et ce livre. Alors, donc pour les auditeurs, moi, je peux vraiment conseiller le livre que vous m'aviez conseillé, Laissez faire l'amour.
Oui, Laissez faire l'amour, c'est un livre formidable. Et Stéphane, vas-y, je l'ai reçu qu'une fois, mais il semble assez, assez correct. D'ailleurs, il ne m'a pas donné ma commission. Non, je plaisante.
Et il y en a un qui vient de sortir sur le slow sex, je crois que c'est Stéphanie Duquesne, qui est vraiment très très bien, parce que plein d'exercices et de conseils pratiques qui permet vraiment de très facilement comprendre de quoi on parle, sans rentrer dans une notion philosophique, mais des choses simples pour que les corps se retrouvent et apprendre à faire la sexualité avec le corps et plus avec les sexes.
Exactement. Et c'est tout à fait le livre aussi de Stéphane, puisqu'il y a donc plein de petits exercices. Et pour moi qui ai fait le stage et qui ai lu le livre, je peux dire que vraiment avec le livre, on a l'esprit du stage et on peut vraiment le mettre en pratique à la maison. C'est très simple, très clair. Et je pense que le livre dont parle Philippe est certainement à cette image également.
Voilà. Mais c'est vrai que dans toutes ces tendances, low sex, tantra, il faut faire toujours très attention.
Alors, voilà. Moi,
je voudrais juste rappeler qu'un des premiers livres que j'ai lu, mais il y a très très longtemps, je vous parle de ça il y a peut-être 40 ans, c'était un livre de Osho, du sexe à la conscience divine, ce qui est un livre formidable. Mmh. Et puis plus tard, j'ai découvert que c'était un vrai gourou et qui baisait toutes les disciples, toutes ses disciples. Et donc c'est pour ça, alors le livre reste formidable, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, parce qu'on frôle parfois des pensées qui ne sont pas toujours...
Et juste pour le rappeler, parce qu'excusez-moi, mais mes racines, même si c'est pas des racines indiennes, me chatouillent quand on parle du tantra. Philosophie. Ce n'est pas un yoga. C'est une philosophie qui peut tout éclairer. À partir du moment où elle peut tout éclairer, on peut faire du yoga imprégné de cette philosophie, mais c'est ce qu'on appelle la voie de gauche, c'est-à-dire c'est de l'art d'arriver à Dieu justement par l'interdit, par les marécages, par tout ce qui justement fait peur, et la sexualité en fait partie, puisque dans toutes les religions, la sexualité est tabou. Dans le tantrisme, la sexualité est autorisée, mais ça faisait partie d'une possibilité parmi d'autres. Il y a aussi l'alcool, il y a aussi les drogues. Tout ça, c'est le tantrisme. Le tantrisme, c'est une philosophie qui a pour but de nous ramener à notre essence, à Dieu. Donc là, dans le sens du yoga, c'est-à-dire de recréer le lien. Mais ça n'est en aucun cas un yoga de plus. Il y a des yogas qui se sont inspirés du tantra, mais ils n'ont pas légitimité à s'appeler tantra. Pas plus qu'on pourrait parler d'un yoga chrétien qui ne résumerait pas la chrétienté ni.
Mais ce qui est important dans ce que vous dites, Philippe Arlin, c'est qu'au départ, dans le tantrisme, il n'y a pas tellement de sexe. Hein. C'est plutôt un éveil à la spiritualité et un rapprochement du divin au sens spirituel du terme.
On se trouve au nord de l'Inde, dans les Himalayas.
on se trouve pas très loin malgré tout de la Chine, Tibet, où à la même époque, il y a le taoïsme qui a aussi des pratiques un peu magiques, un peu sexuelles. Et il y a aussi une dérive qui s'est faite, comme ça, qui s'est appelée tantrisme. Mais voilà, faut prendre le temps. Après, ça ne veut pas dire que ce qu'on met derrière le mot tantra n'est pas intéressant, mais il faudrait rendre au mot tantra ce qu'il dit.
Philippe Arlin, puisque tous les deux, on a peut-être une sorte d'éveil, on va en parler. Ce que je voudrais juste dire, Maria, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Marc ça, c'est que pour aller vraiment vers le tantra, il faut déjà avoir un éveil personnel. Et quand on a un éveil personnel et qu'on a travaillé réellement sa kundalini, on arrive à avoir même seul un orgasme en pleine extase. Donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup de tout ce qui est tantra quand c'est fait par des gens qui n'ont pas finalement une vraie spiritualité et une vraie, une vraie conscience, une vraie éthique.
C'est pour ça que je préfère la modestie du slow sex.
Tout à fait. Moi, pour le
tantra, le slow sex, au moins, on prétend pas avoir touché le septième ciel.
Pour le tantrisme, je voulais simplement dire que nous sommes en contact avec Claire de Lys et ses ouvrages et son DVD sont très très intéressants et on peut vraiment chez soi, faire un très joli chemin.
Écoutez, merci en tout cas Maria de nous avoir parlé du slow sex et puis on va continuer bien sûr dans un instant. Vous pouvez nous joindre Sud Radio 0826 300 300.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Philippe Arlin et François Bourguignon qui nous a rejoint. Donc, dans ce livre, François Bourguignon, pardon, je savais que j'allais le faire.
Tu l'as fait.
Je l'ai fait.
Je vous disais, c'est l'histoire de ma vie, ça.
Oui, vous l'avez fait. Vous l'avez
c'est
fait
son
exprès.
Marécage.
C'est votre marécage. Vous l'avez franchi, visiblement, votre marécage.
On fait avec.
Alors, vous étiez tous les deux en train de discuter pendant la pause.
Et
puis, moi, je n'ai pas de secret pour ceux qui nous écoutent. Donc, je vais parler de cette fameuse triangulation de l'érection. De quoi vous nous parliez là, tous les deux ?
L'érection ne relève pas d'un mécanisme volontaire. Je peux décider de bouger ma main, je ne peux pas décider de bouger mon sexe, de le mettre en érection.
Si on peut, voilà, c'est ça.
Oui. De le mettre en érection. Par contre, je peux utiliser un troisième élément, comme le jus de citron tout à l'heure pour saliver. Moi, je vais utiliser les images qui m'excitent. C'est-à-dire que si je pense à un acte sexuel, si je pense à certaines pratiques, à certains corps, à des images, bref, à des fantasmes, je vais provoquer. Donc voilà pourquoi j'appelle ça une triangulation. C'est-à-dire que j'utilise un deuxième point pour arriver à mon
troisième.
Alors
c'est dégueulasse, il va penser à une autre que moi et pour bander.
Mais non, je peux aussi penser à ma partenaire. Mais ce qui est important derrière ça, c'est que la personne qui souffre de problèmes d'érection, au lieu de penser à quelque chose d'excitant, elle pense à sa panne. Mais la panne n'a jamais fait bander personne. Donc plus on pense à notre problématique, moins on bande. Et c'est la souffrance ultime, puisque effectivement, il faut vraiment sortir de ça et s'accrocher à tout prix à ce qui nous excite pour avoir... Alors ça ne résout pas le problème, mais ça donne au moins une chance d'avancer et d'obtenir le troisième point qui est l'érection souhaitée.
Donc vous êtes d'accord avec tout ça, évidemment, François Bourguignon, puisque...
Oui. Alors ça, c'est quelque chose dont je parle dans la première partie de mon livre, c'est que le fonctionnement de l'esprit peut nous piéger. L'exemple qu'on prend le plus souvent en psychologie, c'est une expérience qui est très connue, en fait, qui consiste à dire, on peut le faire là juste 5 secondes, je vais juste vous demander pendant 5 secondes de ne surtout pas, mais alors surtout pas, penser à un ours blanc.
Moi, j'ai lu votre livre, alors je ne vais pas faire l'exercice.
C'est la reine de la banquise.
Bon, on
déjà.
A Julia Palombe, on a Anaïs, on a Trina. Alors, ne pensez pas à un ours blanc, hein, toutes les trois. Moi, j'aurais préféré l'exemple d'autre chose, de, je sais pas, Rocco Siffredi. Mais bon, c'est l'ours blanc qu'on a choisi.
Alors, qu'est-ce que ça donne pour les personnes qui ont essayé ?
Alors,
on ne pense qu'à l'ours blanc. Voilà. Donc, en fait, c'est un phénomène.
En tout cas, au moins au début.
Au moins au début. Et c'est un phénomène paradoxal qui fait que plus je cherche à ne pas penser à quelque chose, plus je me fais envahir par cette pensée. Et en fait, il y a un phénomène paradoxal dans le fonctionnement de l'esprit qui fait que souvent, quand je cherche à obtenir à tout prix quelque chose, eh bien, j'obtiens l'exact contraire. Et ça a été montré aussi pour le sommeil. Plus je cherche à m'endormir volontairement.
Donc comment il faut faire? Parce que c'est ça l'intérêt.
Ne jouis pas, ne jouis pas, ne jouis pas. Ne pense pas, jure surtout, ne jouis pas.
Et puis et effectivement, le fait d'avoir une érection, plus je cherche à en avoir une volontairement, moment, moins j'y arrive. Donc, le plus simple, en fait,
c'est penser à autre chose.
C'est plutôt de, comment dire, d'accueillir le fait qu'on peut avoir une préoccupation sans chercher à la résoudre et sans se crisper attentionnellement sur elle et d'essayer de faire un peu de place à autre chose et de laisser passer ça.
Là, on est en méditation pleine conscience.
Voilà, c'est ça. C'est de ne pas entrer en conflit avec une idée parce que sinon, elle va m'envahir.
Et sinon, elle va me traverser.
C'est ça. Donc, c'est apprendre à faire avec pour qu'elle passe.
Bien sûr. Mais c'est ce que Krishnamurti démontre très bien dans tous ses ouvrages.
Là, tout d'un coup, on a décollé. Là. Oui. On arrive à Krishnamurti.
Non, mais là, on ne se prive de rien aujourd'hui.
Philippe, on décolle.
Comment vous pensez que j'y suis arrivé là où je suis arrivé
Je ne veux pas le savoir, mais vous avec Krishnamurti, quand même, forcément, on est sûr d'y arriver.
Je partais en dessous du niveau de la mer. Il fallait quand même que je m'élève un peu.
De la mer, L'apostrophe M-E-R.
Ah, bah, celle-là, laissez-la tranquille. On sait pourquoi je m'appelle Laë. Bon, bref, il y a autre chose aussi. Là, on fait du lacanisme maintenant. Bon, on passe de Krishnamurti à Lacan, vous vous rendez compte quand même, hein, franchement. Bon, revenons donc, François Bourguignon, à quelques conseils très intéressants que vous donnez dans votre livre. Moi, j'ai bien aimé aussi les 5 R à pratiquer quand on a besoin d'air.
Oui.
C'est intéressant aussi ça. Hein.
Oui, alors ça, c'est une adaptation personnelle en fait.
Ça marche qu'avec le français. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que c'est une adaptation.
Tout à fait, c'est une adaptation personnelle d'une mini-méditation qui s'appelle l'espace de respiration, qui a été créé par l'équipe qui a monté un programme qui s'appelle MBCT, qui est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Et en fait, c'est une mini-méditation qui capte en fait toute la philosophie de l'approche méditative. Donc le premier R, ça consiste à ralentir. En fait, quand je suis en train de vivre un stress ou quelque chose de difficile...
Je ne demande pas. Donc, voilà, je ralentis, je fais du slow sex.
Je ralentis pour observer un petit peu ce qui se passe et arrêter de partir tête baissée dans du conflit interne, comme on vient d'en parler, par exemple. Le deuxième R, ça consiste à regarder. Qu'est-ce qui se passe en moi?
Je regarde les seins de ma compagne. Alors là, non, mais attendez, moi j'essaie d'imager, on est à la radio.
Alors oui, il y a aussi les pensées, les émotions et les sensations que ça suscite en moi.
On est bien dans ce que
Bon, hein,
on triangule avec de l'air.
Voilà, c'est ça. Donc j'observe effectivement ce qui se passe à l'extérieur de moi, mais aussi à l'intérieur de moi, hein, pour pas me faire piéger par ça. Et le troisième R, c'est de respirer, c'est-à-dire en fait, plutôt que de se faire emporter par les impulsions et par les réflexes de lutte ou d'évitement, c'est juste d'essayer de se stabiliser.
Déjà ralentir sa respiration, vous parlez un petit peu.
Oui.
je suis stressé.
Oui, donc. Et puis ramener aussi son attention sur sa respiration.
Bien sûr.
Le troisième R, c'est reconnaître en fait les choses telles qu'elles sont. Et embrasser
l'inconfort
qui est en moi.
Je ne bande toujours pas.
Et enfin, c'est le dernier R, c'est répondre plutôt que de réagir automatiquement.
Je vais prendre du Cialis.
Non mais, Brigitte, vous savez que c'est normal que vous ne bandiez pas.
Ah bah si, mon clitoris, qu'est-ce que vous croyez, Philippe Arlin?
Oui, mais on a refusé d'appeler ça de la même manière. On parle d'une érection du clitoris, mais jamais un clitoris qui bande.
Il y a les appels de féministes partout, là.
Vous allez vous faire assassiner, lyncher sur les réseaux sociaux, Philippe Arlin, ça y est. Bienvenue au club.
Ah, enfin.
Alors,
j'ai pas dit qu'il ne bandait pas.
Moi, je voulais quand même vous poser une petite question un peu perso, François Bourguignon, parce que.
Est-ce que vous.
Vous êtes. Non, j'irai vérifier. Mais est-ce que. Vous êtes tout beau, tout jeune. Pourquoi
Merci.
Déjà autant.
Oui, bah.
Prenez, bien sûr.
Première R, recevoir.
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre, justement, sur un peu sur la pleine conscience, sur cette réflexion qui est généralement quelque chose qu'on acquiert un peu plus tard, quand on a déjà été beaucoup dans le marécage?
Oui, bon. Alors, je ne suis pas si jeune
on
que
peut
ça,
y
en
être
fait.
Jeune dans le marécage aussi. Hein.
Non, mais il se trouve que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je suis psychiatre et que je suis au contact de patients qui vont pas bien, qui souffrent. Et c'est vrai que, si vous voulez, j'ai bien aimé le postulat de départ en fait, de l'approche méditative et de la thérapie d'acceptation et d'engagement qui dit qu'on n'a jamais eu aujourd'hui autant d'outils pour lutter contre la souffrance. Et pourtant,
on n'était jamais aussi démunis.
La souffrance semble ne faire que progresser. Et c'est peut-être qu'on se trompe de postulat de départ. Et qu'il y a cette histoire entre la recherche de confort et la recherche de bonheur, et que finalement, le fait de ressentir parfois de l'inconfort, c'est quelque chose juste d'incompressible quand on est un être humain. Et quand on part de ce postulat-là, ça va déjà beaucoup mieux. Et c'est vrai que je trouve que ça aide énormément. Alors moi, sur le plan personnel, ça m'aide énormément d'adopter ce logiciel-là. Et je le constate aussi dans les thérapies, les patients qui arrivent à adopter cette philosophie de soins-là s'améliorent Sans conteste.
J'étais sûre que vous ne parleriez pas beaucoup de vous. Merci en tout cas François Bourgognon. Ça s'appelle « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé ». C'est aux éditions First. Philippe Arlin, merci. C'est comme toujours un bonheur de vous avoir à mes côtés.
Merci Brigitte.
Votre livre « Libérez votre désir » aux éditions de La Musardine dans la collection Psycholove. Tout de suite, vous retrouvez « C'est votre avenir ». Demain avec Sophie Cadalen, psychanalyste, on va vous aider enfin à oser vos désirs et à, enfin déjà à les découvrir.